écoutez un nouvel épisode du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes.
Comment être stable émotionnellement ? C'est un sujet que je voulais vraiment aborder parce que la majorité des personnes que j'accompagne, soit dans le cadre de révélations, dans la création d'entreprises ou dans du coaching professionnel, c'est vrai que les émotions, elles sont quand même au cœur de nos périodes de transition, de nos changements. En fait, elles font partie de notre quotidien. Et quand on est stable émotionnellement, eh bien, c'est vraiment un atout précieux qui nous permet de faire face à ces périodes de chaos, de difficultés, à ces moments difficiles avec plus de sérénité, plus d'ancrage. Donc, je vais m'attarder sur le sujet et je vais te partager la façon dont tu peux développer ta stabilité émotionnelle pour faire en sorte que tes émotions, eh bien, ne prennent pas le contrôle de ta vie et que tu reprennes justement toi le contrôle et que tu te laisses pas embarquer par tes émotions, te laisser submerger parce que ça induit des décisions, des comportements qui justement t'éloignent de tes objectifs de vie. Donc on va regarder tout ça plus en détail. Mais avant, j'aimerais t'inviter à me rejoindre le 21 mai prochain pour une masterclass qui est dédiée à la création d'entreprise. Si aujourd'hui tu as un projet ou une idée entrepreneuriale, mais que tu te demandes comment faire pour pouvoir en vivre, pour pouvoir avoir un impact positif auprès des gens, faire une différence dans la vie des gens, mais sans t'épuiser et vraiment prendre plaisir à entreprendre et à faire ce que tu aimes faire, eh bien rejoins-moi pour cette masterclass qui aura lieu le 21 mai. Et quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est effectivement une période transitoire qui est très challengeante au niveau des émotions. Et quand on a une stabilité émotionnelle, eh bien c'est ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées, de développer des relations qui sont saines, d'être en capacité de gérer le stress. Donc tu comprends que être stable émotionnellement, c'est effectivement très très précieux. Donc si tu veux me rejoindre, tu trouveras le lien pour réserver ta place autour de la vidéo ou dans le descriptif de cet épisode de podcast. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet parce que les émotions, jusqu'à il y a quelques années en arrière, c'était quand même quelque chose dont on ne parlait pas, surtout en entreprise. Et même dans le cocon familial, souvent, on nous disait qu'il ne fallait pas montrer ses émotions ou ça ne servait à rien de pleurer pour telle ou telle chose. Donc, on a considéré les émotions comme quelque chose qui n'était pas important. Or, nous sommes des êtres à 90% émotionnels. Notre quotidien est fait d'émotions. Et quand on est en capacité d'avoir cette stabilité émotionnelle, ça change tout dans notre vie. Et il y a des études récentes qui montrent que justement, on a de plus en plus de personnes qui font face à l'anxiété, au stress, qui sont plus emprisonnées dans leur peur. Et tout ça, en fait, ce sont des signes d'instabilité émotionnelle. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience et de développer des stratégies pour renforcer notre résilience mentale. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement par stabilité émotionnelle ? La stabilité émotionnelle, c'est vraiment notre capacité à gérer et à exprimer nos émotions de manière saine et appropriée face aux difficultés, aux périodes de chaos, aux périodes de changement que l'on peut vivre dans notre vie. Parce que ces périodes-là, elles engendrent du stress, elles engendrent de l'anxiété, de la nervosité, elles vont venir réveiller aussi des peurs, des doutes, de la déprime, de l'inquiétude. Donc on est vraiment dans des émotions inconfortables, mais à l'inverse aussi, ces périodes transitoires, notamment lorsque on sait pourquoi on est dans le changement et qu'on est dans l'optimisme et la foi que tout va bien se passer, eh bien on peut vivre aussi à l'inverse beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie. Et en fait, c'est ces fameuses montagnes russes dont on parle régulièrement lorsqu'il s'agit de transition de vie professionnelle. Donc voilà, quand on est stable émotionnellement, eh bien on est en capacité d'avoir de la clarté sur ce qui se passe et donc de pouvoir communiquer de façon alignée, de façon assertive, de prendre des décisions qui sont éclairées, de ne pas se laisser embarquer par le stress et surtout ne pas embarquer les autres dans notre stress. Petit aparté sur le stress, parce que souvent quand je parle d'émotions et quand je demande à mes clients, mes clientes, ok, dans cette situation-là, comment tu te sens, souvent ils me disent je me sens stressée. En fait, le stress n'est pas une émotion. Le stress est une réaction biologique, physique, spontanée, naturelle, qui arrive dans notre organisme en raison d'une situation ou d'un contexte. Et en fait, le stress n'est pas une émotion, c'est la conséquence d'un trop-plein d'émotions. C'est vraiment un mécanisme de réponse qui est amené par différentes émotions dont la peur. Et la peur, en revanche, est effectivement une émotion. Donc, si on te pose la question de savoir comment tu te sens et ou quelle est l'émotion que tu ressens et que tu dis « je suis stressée », c'est plutôt de te dire qu'est-ce qui t'amène à ressentir physiologiquement ce stress. Parce que le stress, à la base, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui est positif parce que quand on est stressé, on a cette montée d'adrénaline et de cortisol dans le corps. Et c'est ce qui peut justement nous pousser à nous mettre en mouvement, dans l'action. Donc c'est plutôt un moteur. Mais là où il devient négatif, c'est lorsqu'il perdure dans le temps et que ça devient quelque chose de chronique. Et donc là, il faut regarder le stress et de se dire, ok, quelles sont les émotions ou le panel d'émotions que je ressens en même temps et qui induit finalement du stress chez moi. Les personnes qui sont stables émotionnellement, elles peuvent gérer le stress et l'adversité sans se laisser justement submerger par toutes ces émotions et ne pas se laisser submerger aussi par les émotions des autres. Donc elles restent vraiment dans la maîtrise, dans le contrôle, ce qui leur permet en fait d'avoir ce moment où elles vont analyser les faits de façon très factuelle, de façon très rationnelle, et où elles vont pouvoir du coup communiquer avec assertivité, en utilisant les bons mots, la bonne tonalité. Elles vont être en capacité de faire preuve de flexibilité, de s'adapter. Elles vont être en capacité de prendre de bonnes décisions, d'avoir ce sens de la réalité que l'on n'a plus justement lorsque l'on est totalement submergé par nos émotions. Donc finalement, la stabilité émotionnelle, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi les causes qui nous conduisent justement à vivre ces instabilités émotionnelles en période de transition? Eh bien, l'instabilité, à l'inverse, elle fait référence à un moment où justement, quelque part, on perd pied et où on éprouve un changement d'émotion qui est fréquent et intense. C'est-à-dire que vraiment en une fraction de seconde, on peut passer par différentes émotions. Et donc on peut vite se laisser embarquer et donc on peut avoir des réactions qui sont disproportionnées. Moi, je me souviens de ce moment où effectivement, j'étais encore salariée et que je reçois un mail. C'était vraiment dans cette période qui était très, très compliquée pour moi professionnellement et où je reçois un mail. Et en fait, ce mail, c'était un peu la goutte d'eau qui venait de faire déborder le vase, où j'étais déjà tellement fatiguée, épuisée, stressée. J'arrivais plus à prendre du recul sur mon activité. Et que le président du groupe est rentré dans mon bureau et il m'a dit quelque chose et là je me suis mise à pleurer. Et là je me suis mise à pleurer en disant Edouard, j'en peux plus, c'est plus possible, je suis pas une bonne manager, alors que factuellement c'était pas le cas. Mais moi dans ma tête j'étais tellement à un niveau de dépréciation de ma valeur avec un manque de confiance en soi que en fait j'avais plus le sens de la réalité. Et je n'avais plus conscience non plus de ce qui se passait dans mon corps, quelles étaient les émotions qui me traversaient, parce que j'étais tellement dans le faire qu'en fait, je ne m'autorisais pas à ressentir. Donc là, réaction totalement disproportionnée et du coup, réunion de crise parce que le président ne comprenait pas pourquoi j'avais réagi comme ça. Au même titre que quand on est parent, des fois, on peut avoir des réactions disproportionnées par rapport à un enfant qui fait tomber un verre d'eau sur la table ou autre. Et en fait, c'est parce qu'on est totalement... on n'a plus notre stabilité émotionnelle. Donc l'instabilité émotionnelle, elle va être déclenchée par différents facteurs qui peuvent souvent être liés les uns aux autres. Hein. Ça peut être le stress chronique. Hein. Là, voilà, ça fait... tu es en période de stress, mais c'est pas de façon courte, sur une courte période. Hein. Ça fait peut-être 2, 3, 6 mois que tu es dans un stress quotidien. Ça peut être aussi des périodes, des situations, des contextes qui viennent réveiller des traumatismes passés. Et donc là, ton corps réagit justement à des émotions que tu as refoulées et que tu n'as pas été en capacité d'accueillir. Ça va être des réactions inattendues, hein, comme je viens de le partager, réagir à des événements d'une manière qui semble totalement incongrue ou disproportionnée. Ça peut être quelqu'un qui, dans le cadre d'une réunion, se met à rire, mais vraiment un fou rire, et puis tout le monde le regarde en disant « mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend ?» ça peut être un changement rapide d'humeur, c'est-à-dire que d'un côté, tu peux être heureux ou heureuse, et puis 5 minutes plus tard, t'es dans la nostalgie, dans la nervosité, dans l'inquiétude, dans le doute. Ça peut être aussi des difficultés à se calmer après un événement... stressant, ou peut-être voilà, une dispute, un conflit... ou peut-être une altercation avec une autre personne et en fait ou une mésentente et du coup on va rester enfermé dans une émotion inconfortable. Ça peut être notamment le ressentiment, hein, des personnes qui sont souvent rancunières, en fait elles restent enfermées dans des émotions inconfortables et ça n'a pas lieu d'être en fait. Ou alors ça va être d'agir de manière impulsive, typiquement une personne qui, voilà, goutte d'eau qui fait déborder le vase et décide de filer sa démission, sans aucune stratégie ou plan d'action derrière pour la suite de sa carrière. Donc c'est quoi les impacts? C'est quoi les impacts d'être instable émotionnellement? Et du coup, instabilité, je le rappelle, hein, c'est vraiment cette incapacité à gérer et exprimer ces émotions. Eh bien, ça va être des réactions émotionnelles imprévisibles dans les relations qui peuvent induire des conflits ou des incompréhensions. Ça va être bien évidemment une incapacité à se concentrer en raison de l'anxiété, en raison de l'inquiétude, du fait d'être toujours enfermé aussi dans son mental. Donc, manque de productivité, hein, on perd en performance. Bien-être physique, bien évidemment, le stress émotionnel chronique, il peut entraîner des symptômes physiques, des maux de tête. Chez moi, c'était caractéristique des maux de dos. Et j'avais souvent des douleurs très 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 fortes au niveau de l'estomac. J'avais une espèce de pointe là, au niveau de l'estomac. Et c'est quelque chose que j'ai revécu très, il y a très peu de temps dans le cadre de mon audit Calliope. Et pendant 48 heures, j'ai ressenti cette douleur à l'estomac. Et donc, je savais que c'était parce que, voilà, je vivais cette période qui me challengeait. Donc, je savais, en fait, je savais quel était le stimuli qui induisait ce mal physique. Et donc, j'en avais conscience. Il y a quelques années en arrière, je n'avais pas conscience de ça. Donc, j'avais été voir le médecin, on avait fait des tests, etc. Bon, maladie imaginaire. Mais aujourd'hui, après tout ce travail de déconditionnement et de travail sur l'écoute de mes émotions, je savais ce que c'était. Et aujourd'hui, j'ai les outils pour pouvoir le gérer. Donc, ça a duré que 48 heures. Mais il y a quelques années en arrière, ça a duré des mois. Prise de décision. Quand on n'est pas stable émotionnellement, bah, on prend des décisions à la va-vite. On est plutôt dans un comportement de fuite. Ou alors, en psychologie, lorsqu'on travaille sur les traumas, on parle de gel. C'est-à-dire que la personne est plutôt dans le statu quo, incapable de prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est des difficultés à prendre des décisions. Donc comment on travaille pour faciliter la prise de décision? Et santé mentale, hein, bien évidemment, quand on est submergé par ses émotions, qu'on n'est pas en capacité de les accueillir, qu'on est totalement submergé, qu'elles prennent le contrôle de notre vie, ben, cela peut induire des maladies. Et des études américaines ont montré aussi que bon nombre de cancers et de maladies autres, notamment maladies mentales, étaient dues à cette instabilité émotionnelle. Donc tu vois que le sujet est vraiment très important et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre aujourd'hui à bras le corps parce que on évolue dans une société malade. Et ça, c'est quelque chose que je dis aussi très souvent, même auprès de mes amis, où voilà, on est dans une société qui est malade, et aujourd'hui, développer sa stabilité émotionnelle, c'est un gage de bien-être, mais c'est aussi un gage de, j'ai presque envie de te dire, d'autonomisation. Parce que plus tu vas être en capacité de développer cette stabilité émotionnelle, plus tu seras en capacité eh bien, de naviguer dans la vie avec plus d'aisance, plus de présence, plus d'ancrage et plus d'alignement. Donc, cette stabilité émotionnelle, elle est vraiment importante dans tous nos aspects, dans toutes les sphères de notre vie. Au niveau des relations, que ce soit des relations de travail ou nos relations personnelles, sociales, familiales et bien évidemment dans notre croissance personnelle. Et quand on fait ce travail-là, eh bien, ça induit aussi un impact sur notre santé au global. Donc, notre capacité à réguler nos émotions, eh bien, elle nous aide à traverser les hauts et les bas, qui sont très significatifs de la vie. Et souvent, on dit que la vie nous teste ou que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et la dernière fois, je lisais un livre et l'auteur partageait une autre vision que j'ai beaucoup aimée et que j'aimerais te partager. En fait, elle disait que finalement, la vie, l'univers n'est pas là pour nous tester. Il nous apporte ce dont nous avons besoin pour grandir. La vie met toujours sur notre chemin ce dont nous avons besoin pour évoluer, pour grandir. Parce que finalement, le sens de la vie, au même titre que l'univers, que la vie autour de nous n'est que mouvement, n'est que changement, eh bien, nous avons vocation aussi, nous, à évoluer et à grandir. Donc toutes ces périodes de chaos, certainement aujourd'hui, que tu, si tu m'écoutes, c'est que tu vis une difficulté professionnelle, c'est que tu traverses une période peut-être de chaos, c'est vraiment le voir comme quelque chose qui est une invitation au changement, qui est quelque chose qui est important d'écouter et d'aller regarder ce qu'on a besoin de lâcher pour avancer vers nos objectifs de vie, vers ce qui fait sens, vers ce qui fait vraiment vibrer notre cœur. Donc, pourquoi c'est important de développer cette stabilité émotionnelle? En plus de tout ça, bah, ça permet de nous sentir en confiance. C'est ce qui nous permet de garder justement notre sang-froid face aux défis, face aux difficultés, d'être dans cette posture vraiment de leadership, hein, d'être dans son leadership. Alors pas le leadership au travail, ça peut l'être, mais aussi dans notre leadership personnel, dans notre capacité à faire face aux défis que l'on rencontre dans nos parcours de vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle ou familiale, sociale ou intime. Ça permet d'avoir une humeur constante, c'est-à-dire qu'on ne vit pas complètement les hauts et les bas, c'est qu'on est en capacité voilà, de réguler tout ça. Capacité accrue à communiquer avec les autres, c'est-à-dire que il m'arrive d'avoir des clients ou des clientes qui ont ces difficultés-là à communiquer avec les autres parce qu'en fait, les émotions, on n'arrive tellement pas à les réguler, à les gérer que, en fait, ça a un impact néfaste sur nos relations et on n'est pas en capacité de communiquer efficacement, à faire entendre nos besoins. Et donc ça induit une incompréhension aussi, ou une non-compassion, ou une non-empathie de la part des autres. Et quand on est stable émotionnellement, eh bien ça nous permet de prendre des décisions. Et des décisions qui sont efficaces, qui sont alignées, et qui nous permettent d'avancer vers encore une fois nos objectifs de vie. Alors, comment on peut faire pour développer cette stabilité émotionnelle et améliorer notre capacité à réguler nos émotions? Tout d'abord, c'est se permettre de ressentir. Il y a quelques années en arrière, au début de mon activité en tant que coach, bah, lorsque j'avais un prospect en séance clarté et puis que la personne finalement ne revenait pas derrière moi ou me disait que finalement elle s'engagerait pas dans l'accompagnement, et ben il y avait cette déception. Bien évidemment, j'étais déçue parce que du coup ça faisait du chiffre d'affaires qui rentrait pas dans mon activité. Et en fait, je le refoulais, je voulais pas le voir et tout de suite je passais à autre chose. Et en fait, ces émotions que l'on n'accepte pas, elles restent dans notre corps et elles grandissent. Donc c'est vraiment important, et encore une fois, plus elles grandissent et plus l'être humain que nous sommes devient cette fameuse cocotte minute qui à un moment donné peut vraiment éclater. Donc c'est important de ne pas éviter nos émotions. Et que si aujourd'hui tu te sens frustré, si aujourd'hui tu sens que tu culpabilises pour X raisons, si aujourd'hui tu sens que tu as honte parce que peut-être que tu devais apporter une réponse à une personne et qu'en fait t'oses pas le dire. Peut-être que tu es en colère parce que tu voulais dire non à cette personne et que tu ne l'as pas fait. Souvent on va mettre ça sous le tapis. Première chose à faire pour développer sa stabilité émotionnelle, c'est de s'autoriser à ressentir. Donc, quand l'émotion arrive, c'est de se dire « Ok, il y a quelque chose qui monte. Quelle est l'émotion ?» Si on peut la nommer, c'est quand même mieux. Et quel est le temps que je m'accorde pour la laisser passer ? Et nos émotions, on le voit bien, quand on est très triste et qu'on se met à pleurer, ben, on ne pleure pas pendant une semaine non-stop. Ça monte, ça arrive au sommet et après ça descend. Et une fois que ça descend, on peut se dire « Ok ». Des fois, ça prend quelques secondes, quelques minutes. Hein. Tout dépend de l'intensité de l'émotion que l'on ressent. Ensuite, ce qui va être important, c'est de communiquer. C'est de communiquer nos sentiments, peut-être nos expériences avec les personnes qui sont concernées peut-être par la situation, par le contexte qui ont engendré chez nous ces émotions inconfortables. Ce qui peut nous permettre aussi d'accéder à du soutien. Juste, voilà, typiquement aujourd'hui, si tu es dans cette période de transition professionnelle, ou peut-être que professionnellement, c'est vraiment pas le top, tu sens que t'arrives à un espace de non-retour et qu'il faut agir. Peut-être que tellement embarqué par tes émotions, tu as du mal à poser les choses et à obtenir peut-être l'adhésion ou la compréhension de ton conjoint ou de ta conjointe. Et du coup, tu n'obtiens pas le soutien que tu aimerais avoir. Et donc ça peut créer plus de ressentiment parce que si aujourd'hui tu es dans le doute, dans la peur ou dans la colère, dans la frustration, que tu ne sais pas l'exprimer à l'autre et que tu recherches du soutien, et que comme tu ne sais pas l'exprimer, l'autre ne te soutient pas, et ben du coup, tu rajoutes de l'émotion inconfortable à de l'émotion inconfortable parce que tu vas avoir du ressentiment vis-à-vis de l'autre en lui disant « il ne me comprend pas ». Et ça se joue aussi bien au niveau de la sphère intime que de la sphère professionnelle. J'ai beau exprimer que je suis surchargée de travail, mon manager ne me comprend pas, il ne me soutient pas, il ne fait pas preuve de compassion, d'empathie, etc. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire pour développer cette stabilité émotionnelle, c'est d'avoir un petit peu dans sa besace quelques stratégies de régulation des émotions. Et parfois, on n'a pas besoin de prendre une journée, hein. Ça peut être en 5 minutes, on a régulé l'émotion. Sauf qu'on est tellement habitué à être dans le réactionnaire, à être dans la réaction, qu'on ne s'autorise pas à avoir ce moment de pause où on va se dire « Ok, comment j'ai envie d'accueillir cette émotion ?» Et aussi de se poser cette question qui est très importante, qui est de dire « Est-ce que l'émotion que je ressens, elle est cohérente avec la situation, le contexte que je traverse ?» Et parfois, on va se dire « Non, mais c'est totalement disproportionné. C'est pas la bonne émotion que je devrais ressentir. » Et donc là aussi, ça nous permet de diminuer en pression et de réguler l'émotion. Alors, voici quelques stratégies que tu peux utiliser, même si tu es sur ton temps de travail, hein, si tu es en réunion, tu sens que ça monte ou peu importe, tu peux facilement, là ça demande un peu de courage, mais tu peux facilement t'excuser, sortir de la pièce, aller aux toilettes et puis faire ce que tu as à faire pour venir réguler ce trop-plein. Donc souvent, la respiration profonde, c'est nickel. On peut le faire même en réunion. On ferme les yeux juste quelques instants. Donc c'est inspirer finalement lentement par le nez, retenir sa respiration pendant quelques secondes, puis expirer. C'est un peu le système de la cohérence cardiaque, hein. Et en fait, cette technique, elle va venir activer ton système nerveux parasympathique. C'est ce qui va favoriser la relaxation. Et là, tu peux juste mettre sur pause et juste le tester, juste aussi avec une respiration ventrale, juste quelques instants, et tu sens que ça permet de faire diminuer la pression. La méditation, bien évidemment, et encore parfois même 5 minutes de méditation guidée ou de méditation avec une petite musique relaxante, ça aide à faire diminuer la pression. Ça peut être aussi une activité physique, ça peut être de secouer son corps, ça peut être de danser, ça peut être d'aller prendre l'air, de marcher un peu en pleine nature. Ça peut être faire aussi la pratique de la pleine conscience avec le body scan. C'est juste fermer les yeux et puis faire ce scan de son corps tout doucement et de regarder les endroits dans son corps où il peut y avoir des tensions, des douleurs, et de respirer en fait dans ces endroits-là jusqu'à ce que la tension ou la douleur ou le petit point de contraction disparaisse. Ça peut être de journaliser aussi. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de reconnaître ses émotions, de les accueillir, de les nommer, parce que c'est vrai qu'en termes de vocabulaire, on est plutôt pauvre, et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je mets à disposition de mes clients et mes clientes tout ce dont ils ont besoin pour venir retravailler en fait sur ce vocabulaire et comment accueillir et comment libérer émotionnellement aussi le trop-plein. Donc ça peut être d'écrire et d'avoir un journal où à la fin de la journée, tu peux venir retracer un petit peu ces moments plus difficiles, ce qui s'est passé, selon toi, quelle est l'émotion que tu as ressentie, quel a été finalement le stimuli extérieur qui t'a fait ressentir de la honte, la peur, le doute, l'insatisfaction, la colère, le ressentiment. C'est de regarder un petit peu tout ça, de dire ok, il y a eu ça, donc ça c'est un stimuli qui est venu générer ça comme émotion. Ok, et dans mon corps c'était comment? Voilà, c'est de pouvoir commencer à se rééduquer au niveau de ces émotions pour pouvoir par la suite réagir plus rapidement. Parce que dès que tu as conscience de stimuli et que tu sais que ta programmation interne va t'amener à réagir de telle façon, bah là tu es en capacité de réagir et là tu es en capacité de reprendre le contrôle. Donc si aujourd'hui tu te sens vraiment submergé, dépassé par tes émotions, que tu as du mal à gérer le stress, que tu as du mal à faire preuve du sens de la réalité, que prendre des décisions c'est difficile pour toi, eh bien je t'invite aussi à prendre un temps d'échange avec moi pour analyser la situation, voir ce que tu traverses et comment je peux t'aider à développer cette intelligence émotionnelle et développer ton leadership pour, encore une fois, être en capacité de devenir cette personne qui atteint ses objectifs de vie pour plus de sens, pour plus de fun et plus d'équilibre dans notre vie. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker ou à mettre 5 étoiles sur Spotify. Si tu penses que ça peut aider aussi d'autres personnes, surtout n'hésite pas à le partager. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.